Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Lutte contre la pauvreté, le trafic de stupéfiants, contribution de l'Église au sein de la société vénézuélienne ou encore dialogue entre la conférence épiscopale et l'État, autant de thèmes au centre des discussions entre le pape François et le nouveau président vénézuélien, Nicolas Maduro. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Un texte historique a été publié par les luthériens et les catholiques dans le cadre du 5e centenaire de la Réforme. Éclairage dans cette édition avec le père Michel Fédoux, membre de la Commission luthérienne catholique. Nous nous intéresserons également dans ce magazine aux défis de la médecine pédiatrique et à la question de l'enfant souffrant. Un colloque sur ce thème était organisé la semaine dernière à Rome. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François a reçu ce lundi matin en audience le président vénézuélien élu en avril dernier dans le palais apostolique au Vatican. Nicolas Maduro a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone et le secrétaire pour les relations avec les États Monseigneur Dominique Mamberti. Les entretiens se sont déroulés dans un climat cordial, selon un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège, et plusieurs thèmes importants ont été évoqués, dont le rôle de l'Église dans la société vénézuélienne et la lutte contre la pauvreté et le narcotrafic. Bernard de Cotigny.
La situation sociale et politique du Venezuela après la récente disparition du président Hugo Chavez, mais aussi les problèmes de la pauvreté et de la lutte contre la criminalité et le narcotrafic. Autant de dossiers cruciaux qui étaient au cœur des discussions. Avant même cette rencontre, le bureau de presse du Saint-Siège avait précisé qu'il s'agirait d'une audience d'un chef d'État comme toutes celles que le Saint-Père a accordées ces derniers mois à des responsables latino-américains. Il n'en reste pas moins que cette visite intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le nouveau président vénézuélien. Son gouvernement reste en effet fragile, après une victoire de justesse, contestée par l'opposition, et il doit faire face à de nombreux défis en termes de politique interne, mais aussi régionale. La situation de la région a d'ailleurs été également abordée, et en particulier le processus de paix en Colombie, une référence qui n'est pas sans rappeler les tensions diplomatiques entre le Venezuela et la Colombie. En mai dernier, le président Maduro a averti qu'il hésitait à continuer à participer au processus de paix en Colombie entre le gouvernement et les FARC, ayant des doutes sur les véritables intentions du chef de l'État colombien, Juan Manuel Santos. La présence historique de l'Église catholique dans le pays et sa contribution décisive dans le domaine de la charité, de l'assistance sanitaire et de l'éducation étaient également au cœur des discussions qui ont permis de convenir de la nécessité d'un dialogue sincère et constant entre la conférence épiscopale et l'État pour le développement de toute la nation. Un point important, alors qu'on s'en souvient, les rapports entre la hiérarchie catholique au Venezuela et le président Chavez étaient particulièrement tendus. Une nouvelle page est-elle en train de s'ouvrir dans les relations entre le Saint-Siège et le Venezuela? L'avenir nous le dira. Le nonce apostolique à Caracas, Mgr Pietro Parolin, a déjà fait savoir que cette visite serait utile pour tout le pays, surtout pour la réconciliation et la paix.
Au terme de cet entretien privé, le président vénézuélien a offert au pape François un grand portrait de Simon Bolivar et un tableau de la Vierge de Coromodo, ainsi qu'une petite statue du serviteur de Dieu de José Gregorio Hernández, connu pour son engagement en faveur des pauvres. Et sachez que le pape François a également reçu ce mardi le cardinal Zekyun, évêque émérite de Hong Kong, et le vice-premier ministre irakien Roish Nouri Chaweis. La situation des chrétiens et des églises en Égypte, en Irak, en Syrie et en Terre Sainte, c'est le thème de la 86e Assemblée de la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales. Elle s'est ouverte ce lundi à Rome pour 4 jours de travaux. Parmi les nombreux participants, le patriarche copte catholique, Mgr Ibrahim Isaac Sidrak, et le patriarche chaldéen, Mgr Raphaël Ier Sacco, tous deux élus en janvier dernier, mais aussi le nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari, dont l'intervention consacrée à la situation en Syrie est très attendue. Autre moment fort, la messe mardi matin pour les bienfaiteurs et pour la paix au Moyen-Orient, célébrée par le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, et la rencontre jeudi prochain de tous les membres de la ROACO avec le pape François. Crise économique et sociale, dialogue écuménique et interreligieux, formation des futurs prêtres, beaucoup de sujets qui ont été évoqués la semaine dernière à Bagdad, en Irak, lors du premier synode de l'Église chaldéenne, convoqué après l'élection de Mgr Sacco. Dans un communiqué final, le nouveau patriarche de l'Église chaldéenne et les 14 évêques chaldéens retracent les grandes lignes de cette assemblée et formulent plusieurs recommandations. Olivier Bonnel.
C'est tout d'abord un appel à la reprise du chemin écuménique qui a été lancé par le nouveau patriarche et les évêques chaldéens. Un dialogue avec toutes les autres églises et communautés chrétiennes, à commencer par l'église assyrienne, avec laquelle ils espèrent voir rétablie l'unité de l'église d'Orient. Le texte insiste également sur la poursuite du dialogue avec l'islam dans toutes ses articulations. Autre point abordé, la crise politique et sociale en Irak. Les évêques chaldéens suggèrent de créer une commission de laïcs et de prêtres afin de rechercher des réponses concrètes aux problèmes du travail et de favoriser les investissements en Irak. En matière de politique intérieure, ils rappellent qu'il s'agit d'un domaine confié à la responsabilité spécifique des laïcs chrétiens et dans lequel les évêques et les prêtres ne doivent exercer aucune intervention directe. L'Assemblée synodale a également mis en évidence la nécessité d'accorder la plus grande attention à la gestion transparente des ressources économiques des diocèses et de soigner la formation des candidats au sacerdoce en évitant d'envoyer tous les futurs prêtres étudier à l'étranger et de confondre la pastorale des vocations avec une campagne de recrutement pour remplir des espaces vides. Les évêques chaldéens rappellent notamment qu'aucun prêtre ne peut déplacer sa résidence d'un diocèse à un autre sans l'accord des deux évêques concernés. Ce long communiqué s'achève sur une invitation à la prière pour les deux métropolites orthodoxes d'Alep, enlevés le 22 avril dernier et dont on est toujours sans nouvelles.
Le patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Boutros Bécharahai, a consacré ce dimanche le Liban et l'ensemble du Moyen-Orient au cœur immaculé de Marie, priant afin que tous les peuples de la région soient libérés des péchés qui portent à des divisions, à des agressions et à la violence. L'acte solennel de consécration est lieu au sanctuaire national de Notre-Dame du Liban d'Arissa. De nombreux fidèles s'étaient rassemblés autour de la basilique pour demander, au travers de cet acte de consécration, que le pays du Cèdre ne soit pas ruiné par la contamination des conflits sectaires qui déchirent la Syrie. Dans son homélie, le cardinal Rai a associé les musulmans à l'acte de consécration, rappelant que le Liban est le seul pays dans lequel la solennité de l'Annonciation, le 25 mars, est célébrée à la fois par les chrétiens et par les musulmans en tant que fête nationale. Il a également rappelé l'urgence d'une réconciliation entre les forces politiques et en particulier entre les deux coalitions opposées, celle du 8 mars et celle du 14 mars, qu'il a stigmatisé pour avoir compromis l'image du Liban et sa coexistence, en paralysant les institutions et en poussant le peuple libanais à s'impliquer dans le conflit syrien. Les patriarches et chefs des églises de Jérusalem ont publié ce mardi un communiqué dans lequel ils protestent contre les mesures de fermeture qui sont prises par la police israélienne à la porte de Jaffa, dans la vieille ville de Jérusalem. C'est plus qu'inacceptable pour nous, pour les pèlerins et tous les habitants de notre quartier, affirme-t-il, demandant à la municipalité et à la police de trouver des moyens pratiques pour assurer un accès constant et ininterrompu via la porte de Jaffa, surtout, précise-t-il, lorsque l'on sait qu'il y a plus de 40 jours par an où se déroulent autour de cette porte divers événements. Du conflit à la communion, c'est un texte historique et très attendu qui a été publié ce lundi par les luthériens et les catholiques en vue du 5e centenaire de la Réforme, 14 ans après la déclaration conjointe d'Augsbourg en octobre 1999. Fruit de 4 années de travail de la commission bilatérale pour le dialogue, ce document d'une trentaine de pages parcourt l'histoire, souvent douloureuse, des relations entre catholiques et luthériens, s'attarde sur les progrès théologiques accomplis depuis le Concile Vatican II et évoque également les points de divergence encore existants. On avait dit que la foi divise et que l'agir unit, aujourd'hui on doit affirmer le contraire, avait déclaré le cardinal Cor, préfet du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, au cours d'un entretien accordé à l'agence France Presse en février 2013. Il était à Genève ce lundi aux côtés de la Fédération luthérienne mondiale pour la publication officielle du texte. Le père Michel Fédoux, membre de la commission luthérienne catholique qui est à l'origine de ce document, nous en précise les principaux points et en explicite le caractère historique.
ce document qui est donc promulgué actuellement, c'est un document qui en effet a quelque chose d'historique dans la mesure où il se propose avant tout de se prononcer sur une commémoration, puisque voici 5 siècles que la réforme a commencé, et donc il a paru important aux responsables du côté catholique comme du côté luthérien, il a paru important de réfléchir sur ce que pouvait signifier cette commémoration du début de la réforme de 1517, qu'est-ce que ça peut signifier au fond à la fois pour les catholiques et pour les luthériens. C'est la première fois qu'on assiste à une commémoration œcuménique du début de la réforme. Jusqu'ici, ça n'avait jamais existé. Il y a eu bien sûr des déclarations du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI à propos de Luther, il y a eu des textes qui ont été produits, mais c'est la première fois que les commencements de la réforme donnent lieu à une commémoration œcuménique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour l'année 2017. Comment vivre cette commémoration et comment la célébrer?
Alors, ce document est intitulé « Du conflit à la communion ». Et donc reparcourt une histoire assez douloureuse hein, entre les catholiques et les luthériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Qu'est-ce que dit le document sur cette histoire?
Alors, vous noterez d'abord que ce document parle de commémoration. Une commémoration, ce n'est pas forcément un anniversaire qui est joyeux, surtout à tout point de vue. Une commémoration implique, dans le cas présent, la reconnaissance de ce qui nous a divisés et aussi des attitudes, au fond, non évangéliques qui ont pu être les nôtres de part et d'autre, au moment en particulier des controverses les plus dures entre les catholiques et les luthériens. Donc il y a cette part de reconnaissance, au fond, de ce qui a été forme de péché, ou en tout cas contre-témoignage par rapport à l'Évangile. Mais il y a aussi dans cette commémoration quelque chose d'éminemment positif, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui, à travers l'Église catholique, comme à travers les luthériens, a pu justement incarner une forme ou des formes de fidélité à l'Évangile. On essaie, au fond, de faire le point, de discerner les ombres et les lumières dans cette période, avec bien sûr un souci avant tout de chercher comment aller de l'avant vers la communion espérée. Mais nous venons de loin, nous venons de fait de périodes de graves controverses, et heureusement depuis quelques décennies, grâce au développement du mouvement œcuménique, les choses se sont bien améliorées, et il reste évidemment encore des pas à faire, mais je pense que ce document représente un jalon important dans cette marche vers la communion espérée.
Ce document s'attache également à développer les progrès qui ont été accomplis dans ce dialogue entre luthériens et catholiques, des progrès essentiellement théologiques.
Oui, il y a eu des progrès en matière théologique sur beaucoup de points, sur des points tout à fait fondamentaux. Le plus important, c'est la doctrine de la justification par la foi. Les luthériens et les catholiques se sont vivement opposés sur ce point au XVIe siècle et dans les siècles suivants. Or, l'accord de 1999 a montré qu'il y avait désormais un accord, une entente substantielle entre luthériens et catholiques sur ce sujet qui pourtant jusque-là divisait. Et ça, c'est grâce à tout le travail du dialogue œcuménique et grâce au travail de réflexion théologique qui a été mené depuis plusieurs décennies. Mais il y a aussi d'autres thèmes théologiques fondamentaux sur lesquels des rapprochements et même des accords ont été atteints entre luthériens et catholiques. Par exemple, en ce qui concerne l'écriture et la tradition, vous savez que traditionnellement, les luthériens insistent essentiellement sur l'écriture, sola scriptura, tandis que la tradition catholique a toujours voulu, tout en insistant aussi sur l'écriture, bien sûr, elle a voulu aussi souligner l'importance de la tradition. Or, le dialogue œcuménique qui a été mené, surtout depuis une cinquantaine d'années, entre catholiques et luthériens, a permis de montrer qu'il y avait désormais des rapprochements très très importants, des vues communes pour l'essentiel sur le rapport écriture-tradition de part et d'autre. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'Eucharistie. Là aussi, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Sur tous ces points, il y a eu vraiment, sinon des accords aussi solennels, aussi officiels que celui d'Augsbourg sur la justification, tout au moins des rapprochements très réels entre catholiques et luthériens.
Ce document est, on peut dire, un état des lieux du dialogue avec les progrès accomplis, etc. Mais il reste aussi, évidemment, des points de résistance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
D'ailleurs, c'est ce qui est dit par le document. Le principal pas qui reste à franchir concerne la compréhension même de l'Église, si vous voulez. Bon, sur ce point aussi, il y a des rapprochements qui ont été faits, mais il reste encore des chemins à parcourir parce que, pour le dire de façon très, très rapide et très brève, du côté catholique, on a tendance à considérer que l'Église a un rôle en quelque sorte actif dans l'économie du salut, tandis que la tradition luthérienne porte plutôt à considérer l'Église comme davantage passive, comme instrument, si vous voulez, de l'administration, de l'économie du salut. Donc il y a des divergences qu'il faudra pouvoir, espérons-le, surmonter dans les années ou les décennies qui viennent.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. Une messe pour l'Europe sera célébrée ce mardi soir en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Une célébration en l'honneur du 1150e anniversaire de l'arrivée des saints Cyril et Méthode, patrons de l'Europe en Grande-Moravie. La messe sera présidée par Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, en présence du cardinal Dominique Duca, archevêque de Prague, et de Mgr Aldo Giordano, observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe. Quels sont les défis actuels qui se posent à l'action missionnaire de l'Église en Europe? C'est autour de ce thème que les responsables de la communication sociale des conférences épiscopales catholiques d'Europe étaient rassemblés du 12 au 15 juin dernier à Bucarest, en Roumanie. La rencontre, à l'initiative du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, se tenait 10 ans après la publication de l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa. Les participants ont souligné dans un communiqué que le principal défi de la réunion consistait à comprendre qui est l'homme en Europe aujourd'hui et vers où il chemine et comment l'Église catholique peut être à ses côtés et l'aider à intégrer le message évangélique dans son expérience quotidienne. Les réflexions et le débat ont permis de comprendre très clairement que la question est de nature anthropologique, indiquent les participants, quelle est l'idée de l'homme que l'Europe veut livrer au futur. L'enfant comme personne et comme patient, c'est le thème d'un colloque organisé vendredi et samedi dernier par le Conseil pontifical pour la pastorale des services de santé, de concert avec la fondation Le Bon Samaritain, une rencontre qui s'est tenue à Rome dans le cadre de l'année de la foi et juste avant la journée de l'Evangelium Vitae. Plus de 200 médecins, spécialistes, infirmiers et psychologues venus de 30 pays ont planché sur les défis de la médecine pédiatrique, ses perspectives éthiques et scientifiques. L'enfant souffrant dans toutes les dimensions de sa personne, physique, morale, psychique, intellectuelle et spirituelle, son accompagnement et celui de ses proches étaient également au cœur des réflexions. Parmi les intervenants à ce colloque international, Nazli Joma, première psychologue mahoraise de l'île Mayotte. C'est surtout auprès des adolescents que cette jeune thérapeute travaille dans un contexte général de crise identitaire de la jeunesse et de conflits intergénérationnels. Écoutez son témoignage.
Mayotte, depuis 2 ans, est devenu le 101e département de France. Dans les années 70, Mayotte a fait un boom en 30 ans. On a beaucoup de mutations au niveau social, des bouleversements au niveau économique. Aujourd'hui, au niveau intergénérationnel, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les parents, l'éducation des parents et l'éducation des jeunes mahorais. Donc aujourd'hui, on assiste à une crise identitaire par rapport aux jeunes, où ils n'arrivent plus à se retrouver. Qui est-il? Il est mahorais, il est français, mais comment se construire lorsqu'on est mahorais? Mais en même temps, on va à l'école de la République, on nous dit que la famille, elle est nucléaire, alors que la famille, c'est chez nous, en tout cas en tant que mahorais, l'éducation, c'est une éducation communautaire. La famille, elle est au sens large, elle est vue au sens large. Le voisin, c'est un membre de ma famille, alors que le jeune, lorsqu'il va à l'école, le monde extérieur, via la technologie, via les médias, vont renvoyer que non, les parents, c'est juste 2 personnes, le père et la mère. Donc il y a cette double discours qui est entendu par le jeune mahorais, et forcément, le jeune se retrouve plus vers ce discours métropolitain, républicain, que le discours de la famille plus communautaire. C'est ce qui crée le conflit. Le conflit, et le jeune se retrouve dans des crises identitaires où il n'est pas compris par sa famille. Et il faut aussi renvoyer, parce que lorsqu'on parle jeune, on est obligé aussi de parler parents, on est obligé de parler aussi de la famille. La famille aussi se retrouve complètement perdue dans ce modèle éducatif où la République lui renvoie que l'enfant a des droits. Or, eux, ils ne connaissent pas ces droits-là. Ils méconnaissent ces droits. Du coup, l'espace thérapeutique devient vraiment un espace de parole où nous essayons aussi d'amener aussi la famille à pouvoir aborder les difficultés de l'enfant, les difficultés éducatives au sens large.
Nazli Joma, interrogée par Manuela à Fiji. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.